Le RKS Foot Time Show. Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS. Le RKS Foot Time Show.
Allez, bonjour à tous, on est lundi soir 19h, bienvenue dans votre émission le RKS Foot Time Show. La semaine a été chargée en contenu footballistique et nous les avons tous étudiés afin de débattre et vous régaler pendant 60 minutes. Pour cela, je suis accompagné de notre savant fou Pierrot.
Salut Pierrot. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et oui, on a regardé tous les matchs, il y en avait quasiment un par soir. J'ai failli perdre ma femme, mais je suis là aujourd'hui.
Bon. Pas divorcé?
Non, ça va, ça bon. Va. Avec trois gosses, elle risque pas de partir.
Bon, tout va bien. Et on a aussi avec nous il nostro gentile italiano, Kevin. Comment vas-tu, Kevin?
Buonasera a tutti. Alors moi, j'ai pareil, j'ai failli perdre ma femme, mais pas pour les mêmes raisons. Hein. C'est pas parce que j'ai regardé tous les matchs, c'est parce que la Juve, elle a perdu et que je suis très irritable quand la Juve perd.
Je comprends, t'aurais pu te mettre en confinement peut-être. Ça aurait été plus raisonnable.
Peut-être.
Eh bien écoutez, justement, on l'a dit, un programme chargé en football pendant tout ce mois d'août. Et cette première semaine a été justement sous les feux des projecteurs du Ballon Rond. On va vous parler ce soir de Nicolas Anelka et de son reportage qui est sorti dernièrement sur Netflix. On va parler également de la Ligue Europa, de ce match Juventus-Lyon et également forcément des autres matchs des huitièmes de la LDC. Mais avant cela, on va démarrer une petite intro en faisant un clin d'œil au football féminin puisque hier soir avait lieu la finale de la Coupe de France qui opposait l'Olympique Lyonnais au Paris Saint-Germain. Les Lyonnais se sont imposés au pénalty face au Paris Saint-Germain, messieurs, devant un stade quasi complet à la Baie des Champs. Ils ont exaucé mon vœu, ils n'ont pas fait la finale des masculines dedans, mais en tout cas, ils ont fait la finale féminine. Et excusez-moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé que c'était bien plus agréable. On entendait des supporters, il y avait beaucoup plus pour moi l'envie suscitée de regarder, de prendre plaisir devant cette rencontre, messieurs.
Ouais, c'était un beau match. L'Olympique Lyonnais est toujours aussi indétrônable. Au niveau du foot féminin, c'est une grosse réussite de la part d'Olas, qui contrairement aux hommes, on va dire, pour les 10 dernières années, a bien géré le football féminin, qui est peut-être un peu plus adapté à la gestion olassienne, parce qu'Olas, c'est pas quelqu'un qui va dépenser des millions, c'est pas quelqu'un qui va forcément recruter des entraîneurs étrangers, qui va s'entourer de personnes étrangères, et on sait qu'aujourd'hui, pour franchir un cap, notamment en Ligue des Champions, il te faut des fois un entraîneur pas forcément français, surtout que des bons entraîneurs français, il n'y en a pas beaucoup. Et au final, c'est une bonne chose pour les filles. Moi, je suis très content pour elles. Elles le méritent. Donc voilà, j'ai rien à dire. À part effectivement cette histoire par contre de supporters, ça pose quand même une certaine injustice. Pourquoi les filles jouent une finale avec du public alors qu'en Ligue des Champions, pour les hommes, il y a zéro public?
Je suis entièrement d'accord avec toi.
Messieurs, c'est bien connu que les femmes savent mieux se tenir que les hommes. C'est pour ça, messieurs, allez pas chercher plus loin.
Alors, non, moi j'aimerais juste, si je peux me permettre, te tirer un petit signal d'alarme. Parce que si vous avez bien regardé les vidéos hier, l'abbé Deschamps et les organisateurs avaient condamné un siège, d'accord, entre deux. D'accord. Malheureusement, ça a été très peu respecté par les supporters qui ont tout arraché et qui se sont mis côte à côte. Vraiment, je tire vigilance, hein. On est dans une période assez spéciale. On nous permet de retourner dans les stades, respecter les règles. Respecter les règles, c'est vraiment important. Pierre, cette finale.
Cette finale, j'aurais aimé qu'il y ait des buts. Parce que en ce moment, en termes de finale, c'est un petit peu pauvre de ce côté-là. Après,
surtout avec Kakoto, le sommaire, Miroslav.
Ça a développé du jeu un petit peu plus sympa que ce qu'on avait pu voir sur les phases finales, sur les finales de masculines. Après, ça manque de buts, ça me rend un petit peu triste parce que à l'image un petit peu de ce qu'on avait pu voir sur la finale entre la France et la Croatie en finale, quand la France gagne 4-1, je veux dire, à un moment, même si l'équipe de France n'a pas été exceptionnelle, 4-2, pardon, oui, c'est vrai que j'oublie le dernier qui est un peu atypique, on va dire. Même si ce match-là n'était pas forcément mieux que la finale d'hier, en fait, dès qu'il y a des buts, ça fait tout de suite
la différence,
quoi. Et c'est vrai que ça me rend un petit peu triste d'avoir ces matchs à rallonge qui se finissent au tir au but. Hier, Lyon a gagné au tir au but et je suis content parce que c'était mérité par rapport à l'ensemble du match. Mais tu vois, sur une finale au pénalty, c'est un peu un coup du sort. Ça crée parfois des polémiques, comme quand l'Italie avait gagné contre la France au penalty ou dans des moments où tu te dis bah c'est pas mérité quoi. C'est voilà.
C'est les règles du football après.
Pour moi,
c'est...
j'aime bien cette phrase qui dit qu'il faut que le terrain parle. Et pour moi, le penalty, c'est un peu un moment ingrat. C'est pour dire bon les gars, je suis désolé, mais il faut que j'aille me coucher.
C'est de la roulette russe.
On est fatigué, voilà. En gros, pour moi, le penalty, c'est un peu la roulette russe. Alors oui, il y a quand même du talent parce que le penalty, faut le mettre. Il y a du mental, mais on sait très bien qu'au tir au penalty, même si t'as été dominé tout le match, que t'as pas frappé une seule fois au but, bah sur les tirs au penalty, on le voit bien en Coupe de France hein, ou en Coupe de la Ligue, bah c'est ce qui permet très souvent aux petits poussets d'éliminer les plus gros. Alors même si on me dira ça fait la beauté du football, bon, c'est pas forcément les plus beaux matchs à mes yeux, quoi.
Alors justement, messieurs, on parle de but. Il en a marqué plutôt beaucoup dans sa carrière. On va parler de ce fameux reportage qui est sorti sur Nicolas Anelka, qui, allez, on va dire qu'il reprend sa carrière, l'époque de Naïs Na, la descente du bus, la grève des joueurs, qui est sorti sur Netflix dernièrement. On va en parler ensemble. Moi, je vais vous dire honnêtement ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti un Anelka qui était sincère, transparent, qui a reconnu ses torts. Honnêtement, quand j'ai revu le reportage, je pensais pas qu'il avait un aussi grand palmarès, hein, mine de rien. C'est deux Ligues des Champions, c'est des championnats d'Angleterre, c'est un championnat d'Espagne aussi avec le Real de Madrid.
Non, il en a gagné qu'une de Ligue
une
des Ligue Champions.
Il en a gagné, je pensais une qu'il avait gagné,
non,
une avec le Chelsea.
Il a échoué, tu sais, ça, Louis.
Ah oui, exact. Autant pour moi. En tout cas, j'ai trouvé un garçon qui était plutôt calme comparé à ce qu'on a pu connaître ou ce qu'on a pu entendre sur lui. Moi, j'ai apprécié ce reportage. Messieurs, toi, Kevin, je sais que tu l'as un peu moins apprécié. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que tu as ressenti?
Moi, c'était compliqué quand même de le regarder, ce reportage, de départ, parce que même si ça m'intriguait, j'apprécie pas Anelka, ni le footballeur, ni l'homme. Donc, c'était pas forcément, c'était un peu, on va pas dire une punition, mais c'était comme un devoir à l'école qu'il fallait que je fasse pour préparer l'émission.
C'était un DM, voilà, quoi. T'as un DM de maths.
Ouais, c'était un devoir maison, voilà. Mais en même temps, il fallait ça reste quand même un des sujets aujourd'hui. La carrière d'Anelka, on l'a vu dans le reportage, c'est bourré de polémiques. Donc c'est sûr que ça faisait un bon sujet. Alors moi, je vais te contredire tout de suite, Melvin, tu es au courant de ce que je vais te dire. Mais pour moi, ce n'est absolument pas un reportage. Parce qu'un reportage, c'est censé être fait et rapporter des faits de manière totalement neutre. Or, ce n'est absolument pas le cas dans cette espèce de publicité géante ou vidéo
pour
de propagande.
Pour toi, c'est une prod Anelka, en fait.
De toute façon, c'est produit par Anelka, c'est fait par Anelka, pour Anelka. Il n'y a que des amis d'Anelka qui parlent. Il n'y a aucun esprit de contradiction dans ce reportage. Et je trouve que c'est dommage, avec quelqu'un d'aussi clivant, de ne pas avoir, justement dans ce documentaire, quelqu'un qui va dire, bah non, moi je suis pas d'accord, ça s'est pas passé comme ça, ou alors bah là-dessus, je suis pas d'accord avec lui. Enfin, je sais pas. Mais
ouais,
vu
mais
que c'est justement pas un reportage. C'est pour moi c'est juste quelque chose qui est fait pour aller, on va dire, rassurer les fans d'Anelka, s'il y en a beaucoup en France, j'en sais rien.
Kevin, je rebondis juste sur un truc et après je te laisse faire. Mais regarde, c'est un peu l'image de ce qu'a fait Michael Jordan par rapport aux Bulls. Si derrière il y en a qui ont envie de remonter et puis de faire remonter des informations et d'aller à l'encontre de ce reportage, libre à eux. Tu vois bien, Michael Jordan, il y a eu plein d'anciens coéquipiers à lui qui sont en train, voilà, de s'exprimer dans la presse en disant « Ouais, mais les faits, c'est pas tout à fait comme ça, c'est plus sa vision des choses. » Après, libre aux gens de venir s'exprimer. Tu dis qu'il n'y a pas eu d'intervention de tiers, mais bon, tu vois, par exemple, je reparle de Domenech. Domenech, il a voulu un moment avoir cette confrontation. Domenech, apparemment, ne l'a pas honoré. Il fait quand même un aparté où il montre le reportage dans lequel Domenech s'exprime et qu'il admet que, bah, pour le coup, ce qui a été dit n'a pas été dit. Après, libre aux gens, à un moment aussi, de s'élever. Wenger, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui est assez neutre. Je ne vois pas Wenger, grand copain de Nicolas Anelka. Ouais, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, mon Kev. Après, c'est ton point de vue.
Ouais, non, mais c'est pas très grave que tu sois pas d'accord avec moi.
Après, c'est le but, vous êtes là pour ça.
Tu parles du documentaire Netflix qui est sorti, The Last Dance, avec Michael Jordan, que j'ai vu et que j'ai adoré. Alors, oui, peut-être que c'est, on va dire, on voit bien que Michael Jordan a la main sur ce documentaire et on sent bien effectivement que c'est lui, encore une fois, la star. Mais on voit quand même Isaiah Thomas, par exemple, qui est interviewé pendant ce reportage-là. Faut savoir qu'Isaiah Thomas et Michael Jordan ne s'apprécient absolument pas, qu'il y a eu plusieurs finales de play-offs, etc., qui se sont très mal passées entre les deux. Et on a eu la version des deux, notamment ce fameux match, on va pas en parler sans s'attendre, mais il y a eu le match justement où les Bulls gagnent enfin contre les Pistons, je crois que c'était eux, là, les Pistons de Détroit, alors qu'ils n'avaient jamais battu les Pistons. Et finalement, le match où les Pistons perdent, ils ne saluent même pas l'équipe des Bulls, ils s'en vont du terrain quasiment avant, je crois, même avant la fin du match, ce qui est complètement honteux comme attitude. Mais pour le coup, tu as la version d'Isaiah Thomas qui t'explique pourquoi il est sorti, alors que dans le reportage d'Anelka, pas une seconde, il y en a un qui contredit, qui infirme, même sans parler de Naïsna. Voilà, après tu parles de Raymond Domenech, mais on peut en parler parce que moi non seulement j'ai lu le livre de Raymond Domenech, donc et j'ai vu après le truc d'Anelka. Alors sur le livre de Raymond Domenech, j'ai photographié des pages, mais je vais pas vous les relire un par un. Mais dans le livre, il explique bien que les mots ne sont pas ceux-là. Il explique effectivement qu'il n'y a pas de va te faire enculer sa fille de pute. Il y a enculé, va la faire toi ton équipe de merde.
Tout à fait.
Et c'est quasiment ça qui est retranscrit. Lors du truc d'Anelka. Après, forcément, on va parler de Naïsna. Pour moi, Naïsna, c'est une faillite collective. Il n'y avait pas que Anelka.
Pour moi, c'est une faillite même du foot français. Hein.
Oui, mais bien sûr. Mais voilà, je veux dire, il n'y avait rien qui allait de toute façon. De Jean-Pierre Escalette à Nicolas
Anelka,
en passant par Patrice Evra.
Robert Duverne,
Raymond Domenech, Thierry Henry, enfin je veux dire,
il y en avait plein pour qui c'était l'année de trop.
Il y avait rien qui allait de toute façon. Après moi, ce que je n'aime pas dans le discours d'Anelka, c'est que t'écoutes le reportage, il dit juste c'est pas mes mots. Bah d'accord, bah donne-les tes mots. Pourquoi
c'est vrai qu'à aucun moment il dit ce qu'il a réellement dit. Hein.
Donne-les tes mots, puisque t'as rien à te reprocher, puisque t'es parfait, donne-les. Moi j'attends que ça depuis 10 ans qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il a dit. Voilà, il dit juste, c'était pas mes mots. Voilà, d'accord. Et de toute façon, c'est le reportage, c'est tout. Alors oui, c'est vrai, on parle des polémiques, hein, on parle du transfert du PSG vers Arsenal, on parle notamment du clash qu'il fait avec Arsenal, etc. On parle de l'épisode de la quenelle, etc., etc. Et quand tu parles avec lui, enfin quand lui il parle, en tout cas dans le reportage, il dit pas à un autre moment, il dit. Ouais, il dit des fois, il dit bon, ok, j'aurais peut-être pas dû le faire, mais enfin, généralement, c'est toujours. De toute façon, quand il y a quelque chose qui va pas dans la carrière d'Anelka, si vous analysez bien ce qu'il dit, c'est jamais de sa faute.
Ah, quand il marque pas, moi je suis pas d'accord. J'ai trouvé qu'il avait quand même reconnu. Il a fait des mea culpa quand même. Il a reconnu qu'il était un peu.
Mea culpa. Il a juste dit ouais, bon, ok, j'étais jeune, j'aurais pas dû partir du PSG à 16 ans. D'accord.
Non, il a dit qu'il avait été un peu con, qu'il n'avait pas pris les bonnes décisions. Moi, je l'ai quand même trouvé assez intelligent.
Notamment avec le Real de Madrid, où il admet qu'avec du recul, il n'aurait pas dû faire ça.
D'accord. Mais c'est peut-être l'un des seuls épisodes où il dit qu'il est un petit peu fautif sur les bords. Mais je suis désolé, l'épisode de la quenelle, encore une fois, hein, devant les caméras, il dit « Bah ouais, mais j'avais le droit de faire ça, quoi. » Bah non, t'as pas le droit de faire ça, tout comme t'as pas le droit de rentrer dans, je sais pas, d'aller dans la rue et de faire le salut nazi. Même si pour toi, le salut nazi, ça signifie pas quelque chose d'antisémite. Mais c'est pas comme ça que ça marche aujourd'hui, ce genre de signe-là.
Ça, c'est vrai.
Donc maintenant, mais ça, tu vois, il ne l'avoue pas. Et moi, tout comme aussi, je trouve ça dommage aussi, il parle des passages dans sa carrière où il a été bon, parce que oui, il y a des passages où il a été bon, et tous les passages où il a été nul, il est passé de West Bromwich en Inde, alors en Inde, on n'en parle pas du tout, on parle du passage de Fenerbahçe, peut-être 30 secondes, on parle pas qu'il a joué à la Juve et qu'il a fait 3 matchs, hein. Ben non, c'est pas assez glorieux, donc forcément on n'en parle pas, tous des trucs comme ça, on n'en parle pas, on ne parle que des moments de gloire. Alors moi, ça me fait doucement rire quand on parle du passage de Liverpool aussi. Je vais arrêter là-dessus parce que je pourrais en parler pendant l'heure, moi, de Anelka. Mais à Liverpool, donc il est prêté par le PSG à Liverpool. Et il dit qu'à Liverpool, là, il empile les buts, il mérite de rester. Il attendait une proposition de Gérard Rouillet ou de je sais pas qui. Il dit que pour lui, c'était le club parfait, qu'il ne s'est jamais senti aussi bien. Et que pour lui, Liverpool devait le garder. Et Anelka à Liverpool, c'est 5 buts en 22 matchs. Alors moi, je peux comprendre que Liverpool se soit posé la question de savoir s'il l'achetait, surtout que l'option d'achat devait pas être donnée. Donc, je veux dire, il faut tu vois, c'est tout ça qui m'énerve, en fait. C'est que ça reste quelqu'un d'arrogant. Alors oui, peut-être que c'est quelqu'un de droit. Peut-être qu'il a des principes, et ça, c'est très bien. Il faut en avoir, des principes dans le foot. Peut-être que des footballeurs n'en ont pas assez. Lui, au moins, on peut pas dire que ce sera quelqu'un qui mourira avec ses idées. Mais je suis désolé, pour moi, ce reportage, ça n'a pas été un bon moment, parce que j'aurais aimé un peu plus d'esprit de contradiction. J'aurais aimé que quelqu'un vienne parler et dire c'est pas exactement ce qui s'est passé. Je suis pas d'accord avec lui. Mais ça n'a pas été le cas.
Je vois plus ça comme une biographie, une sorte de biographie qui le met en avant, qu'un reportage réel.
Une autobiographie.
C'est vrai.
Voilà. Toi, Pierrot, est-ce que tu as quelque chose à répondre à ça?
Ouais, ouais. Bah, écoute, moi, j'ai apprécié le reportage. Pour être totalement honnête, Anelka, je le mettais un peu dans la catégorie des Balotelli, tu sais, un peu les têtes brûlées qui en font un peu qu'à leur tête et qui n'ont pas l'éducation et le savoir-être nécessaire pour être à ce plus haut niveau-là et pour être autant médiatisé. Moi, le reportage, je l'ai beaucoup aimé, ça m'a plu. J'ai aimé toutes les choses, la manière dont ça a été séquencé, toutes les choses sur lesquelles il est revenu. J'aime bien ça, je le trouve assez lucide par rapport à sa carrière et à ce qu'il a pu faire. Tous les moments où il dit, écoute, à un moment, c'est pas mérité, j'arrive, je marque pas de but, je suis pas bon, je suis mauvais avec le Real de Madrid, il le répète à plusieurs reprises. Parce que c'est vrai que quand tu regardes comme ça la carrière d'Anelka, il joue dans 7 pays, dont la Chine, l'Inde, il va au Fenerbahçe, il retourne à Chelsea.
C'est hein.
Oh, mais tu te dis, c'est quoi cette gestion? Et c'est vrai que par contre, j'ai bien aimé son analyse aussi sur le rôle qu'a pu jouer sa famille dans tout ça. C'est vrai qu'Anelka, c'était un peu une carrière de non-dit. Il y avait beaucoup de choses sur lesquelles on était resté un petit peu sur notre faim. On n'avait jamais vraiment compris cet épisode qu'il avait eu avec Raymond Domenech, qu'est-ce qu'il avait fait, pas fait. La quenelle, il était resté dans le silence. Et moi, le problème pour moi avec une personne comme Anelka, c'est plutôt l'absence de communication. Ça veut dire qu'il a laissé libre cours, il a donné les armes, il a eu une première expérience avec le Real de Madrid, où, excusez-moi du terme, je vais reprendre le terme, mais où les journalistes, pour moi, d'Espagne, ont mis une quenelle. Et de ce jour-là, c'est comme si, en fait, il était rentré dans une image du journaliste mauvaise et il avait boycotté en fait tous les journalistes jusqu'à un moment à les laisser parler. Mais le problème, c'est que on revient un peu en fait sur un débat qu'on a eu ces derniers temps avec Marseille. À un moment, s'ils attaquent en justice, c'est parce qu'ils n'ont pas cette capacité, ils n'ont pas cette envie d'aller avec les médias pour pouvoir se défendre. Et donc le problème, c'est que les médias, quand tu les laisses parler, c'est une catastrophe. On l'a vu avec la gestion du cas Neymar. Aujourd'hui, les journalistes ont une force, une puissance, une capacité de nuisance, ils en parlent très bien d'ailleurs au travers du reportage, quand ils parlent de la jurisprudence qui permet aux médias à tout moment de pouvoir rajouter une insulte dans une phrase, et c'est dramatique les gars, c'est dramatique, parce que là pour le coup, les répercussions que ça peut avoir, et là je pense que c'est là où Anelka il a manqué de lucidité, et parfois de maturité, où à un moment en fait il a pas fait valoir ses droits, il a pas dit ce que les gens attendaient qu'on dise de lui, et pour le coup il a laissé libre cours aux médias pour pouvoir lui créer un personnage,
ouais, pour moi c'est qui, une réaction pour moi, tardive
était plus dur que lui. Donc bref, attention, et puis qui plus est, la presse espagnole, j'en mets une petite couche parce que ces dernières années ils m'ont bien saoulé entre Verratti, Neymar et j'en passe, c'est les meilleurs. Pour moi la presse espagnole c'est la pire presse du monde, ou la meilleure en fonction de ton point de vue, mais putain ils ont une capacité de nuisance les mecs.
Oh, non, franchement, mais c'est une raison,
franchement
la
ça me
la presse espagnole,
ouais, très
mais même là en ce moment avec maintenant Ronaldo qui va revenir ou pas, mais arrêtez de
Ronaldo, il l'envoie de partout
tête,
depuis le départ de Sarri. Ronaldo il l'envoie de partout.
Autant la presse anglaise est très souvent beaucoup plus objective et je l'écoute beaucoup plus, mais la presse espagnole, franchement les gars, il y a à boire et à manger. Bref, c'est une catastrophe. Moi ce que j'ai bien aimé par contre, il le fait pas directement parce qu'il parle pas de Kylian Mbappé dans son reportage, il le fait en off parce qu'il a eu une interview en parallèle de son autobiographie, je vais l'appeler comme ça. Et sincèrement, là où je le rejoins, c'est par exemple sur la manière dont il a géré son début de carrière. On pourrait en citer des dizaines, des mecs qui se sont révélés très tôt, à qui on a dit, toi mon grand, tu vas faire une carrière, tu vas être parmi les meilleurs. J'entendais parler de Gourcuff. Gourcuff, c'est un mec, c'était le nouveau Zidane. On jurait que par lui, Gourcuff, Hatem Ben Arfa. Tous ces joueurs qui, à 18 ans, à qui on a dit, grâce à lui, il va nous ramener 2-3 Coupes du Monde à la pelée, ça va être un truc de malade mental. Et les mecs se sont boités. Et c'est là où, entre guillemets, je vais valoriser un petit peu Mbappé. C'est pas parce qu'il joue au Paris Saint-Germain, mais c'est là où c'est hyper dur aujourd'hui dans le football, quand t'es aussi précoce à 18 ans et que t'es champion du monde, chapeau à Kylian Mbappé, parce qu'on le voit à l'image de ce qu'a pu faire Anelka, c'était un diamant brut, il y avait juste à le polir, il n'y avait pas grand chose à faire, il aurait pu faire une grande carrière, mais quand t'es balancé sur le devant de la scène aussi rapidement, aussi jeune, avec autant de talent, et ben parfois c'est là où en fait l'état d'esprit il est tout aussi important, et Wenger le dit dans le reportage, que le talent, et je pense que c'est là-dessus que ça a manqué un peu Anelka.
Bon,
tout dépend de la taille du melon que tu as après, Pierre. Parce que Anelka a un gros melon.
Mais le problème, c'est que tu n'as qu'une seule boîte crânienne. Donc forcément,
jouer...
plus le melon est gros, moins le cerveau a de la place. J'ai dit, le problème, c'est que tu n'as qu'une seule boîte crânienne. Donc plus le melon est gros, moins le cerveau a de la place.
Ça y est, ça commence les conneries. Ça y est, bon, on parle de melon, mais bon.
Non, mais voilà, mais tout ça pour dire que pour l'histoire d'Anelka, c'est quand même quelqu'un qui a un gros melon. Quand on pense, moi, justement, ça c'est très bien que tu en parles, de Pierre, parce que au final, Anelka, qu'est-ce qui s'est passé à 17 ans, 18 ans, il commence à jouer au PSG, il joue peut-être un match, deux matchs, trois matchs.
C'est ça.
Et il s'étonne en fait de ne pas être titulaire dans cette équipe. Et finalement, c'est pour ça qu'il se bat. Mais aujourd'hui, le procès aurait été tout autant le même, parce que c'est quand même pas normal aujourd'hui que des joueurs n'acceptent pas, surtout ceux qui commencent leur carrière, n'acceptent pas de démarrer tranquillement par la phase centre de formation.
Mais Loulou, rappelle-toi Mbappé, Loulou. Mbappé, oui. C'est exactement la même chose, sauf que Monaco, ils ont baissé leur culotte pour pas le perdre. Hein. Mais Monaco, c'est exactement la même chose.
Je pense qu'il avait les mêmes exigences.
Mais Monaco, c'est un truc de malade. Tu regardes, j'avais regardé, je m'étais amusé. Monaco, Kylian, il faisait 6 mois, il demandait à être propulsé sur l'équipe d'au-dessus. Et à peine arrivé à l'entraînement, il s'entraînait 4 fois, qu'il était déjà demandé l'équipe encore au-dessus. Hein.
Oui, mais
Kylian Mbappé,
alors, oui,
Monaco, ils ont baissé
mais
leur
Kylian
froc.
Mbappé,
hein.
Kylian Mbappé, quand il joue, il marque. Enfin, je veux dire, Nicolas Anelka, quand il commence à jouer, il marque une fois, et quand il marque.
Ah, ça a été un bon joueur.
C'est bon, c'est moi.
Ouais, Anelka, enfin, même dire, en équipe après... de France, quand tu vois Titi qui en parle et que Thierry Henry, qui a quand même aussi un bel ego, il dit que Anelka était largement au-dessus de lui et qu'il crevait l'écran au centre de formation de Clairefontaine, c'est quand même des mots qui sont assez forts. Donc c'est que le mec, il devait quand même avoir
un. Mais c'est comme un Ben Arfa. Ben Arfa, c'est certainement un des meilleurs joueurs, c'est pareil. Mais je pense que voilà, je rejoins un peu Kevin sur ce qu'il dit, sur le fait que c'était beaucoup de copains à Anelka qui étaient dans le reportage. Et que finalement, c'est peut-être pas neutre. Voilà, je rejoins un petit peu ce qu'il dit.
Bref.
Messieurs, on clôt le sujet, hein, parce qu'on a une grosse actu, on a une grosse actu à parler. En tout cas, moi, je vous conseille quand même de regarder, si vous êtes amoureux du football, de regarder ce reportage sur Nicolas Anelka.
Oui, faites-vous votre propre avis.
Voilà, faites-vous votre propre avis, c'est important. N'hésitez pas à réagir sur Facebook et sur Insta en nous disant ce que vous pensez justement à propos de cela et peut-être nous contredire, il n'y a aucun souci là-dessus. Allez, on tourne la page, on passe à la page Ligue Europa, parce que, excusez-moi, mais depuis quelques années, pour moi, la Ligue Europa nous régale. Avec des grands clubs, avec des clubs qui jouent le jeu, hein, comme j'ai entendu dire, je crois que c'est Kevin qui a dit la dernière fois que Pat Vira fallait qu'il joue à fond la Ligue Europa parce que c'était important. Et je le rejoins totalement. On va dire hein, la liste hein, des qualifiés en Ligue Europa. Hein. Pour les quarts de finale, il y a donc le Shakhtar qui sera opposé au FC Bâle, Wolverhampton opposé au FC Séville, Manchester United face à Copenhague, l'Inter Milan face au Bayer Leverkusen. Messieurs, on a quand même le Shakhtar, le FC Séville, Manchester, l'Inter et le Bayern. C'est quand même des gros cylindrés. Hein.
Ouais, c'est clair.
Vas-y, Pierre.
C'est clair. Il y a des gros cylindrés cette année. Alors là où je te rejoins, Melvin, c'est que ça me fait plaisir que tous les clubs, au bout du compte, se mettent à jouer le jeu. C'est de bon augure parce que, mine de rien, c'est une compétition dans laquelle il y a du beau jeu, il y a du beau football. Et c'est surtout une compétition dans laquelle beaucoup d'équipes qui n'ont pas le niveau, le budget, parce qu'on en parlera aussi, mais le budget de la Ligue des Champions, arrivent à s'exprimer et à montrer de belles choses dans le football sur la Ligue Europa. Après, très souvent, en bout de course, on ne va pas se mentir, hein, c'est les meilleures équipes, c'est les déceptions de la Ligue des Champions qui, très souvent, gagnent la Ligue Europa. On le voit sur ces derniers au niveau du palmarès, rien que l'Atlético Madrid contre Marseille. Bah voilà, il y a un moment, il y a une logique qui doit être respectée et très souvent, les gros la font respecter. Cette année, mine de rien, comme tu le disais, il y a certaines... Alors pas là, sur ces quarts de finale-là, il n'y a pas d'affiches qui ont un parfum de Ligue des Champions, mais ça pourrait arriver très, 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 très rapidement parce que c'est ça qui m'intéresse aussi à un moment, c'est que l'Inter, le Shakhtar, Séville et Manchester United, il n'y en a que deux. Quoi. Non, je crois qu'il n'y en a aucun qui se rencontre là, à ce stade-là.
Non.
Il y en a
aucun. Bayer et l'Inter.
Bayer Leverkusen face à l'Inter.
Voilà. Et donc pour moi, les quatre favoris sur ce match se croisent. Shakhtar, Séville, Manchester United et l'Inter Milan.
Complètement.
Donc pour moi, ça va nous donner vraiment, vraiment, vraiment de très, très belles demi-finales et ça risque de nous donner aussi une finale de très belle augure. Et en plus, bon, je vais la regarder aussi indépendamment de l'amour que j'ai pour le football avec une certaine curiosité parce que vous savez qu'il y aura un impact aussi pour Rennes. Rennes qui peut être automatiquement qualifié en fonction des vainqueurs et on sait que parmi ces trois vainqueurs...
Si c'est Manchester, par exemple, ou l'Inter.
L'Inter ou même encore le Shakhtar. Mm-hmm. Si une de ces trois équipes remporte la Ligue Europa, Rennes sera directement en poule. Entre les deux clubs qui sont là à Lisbonne actuellement, c'est bien pour l'indice UEFA parce que mine de rien... Ça va nous permettre comme ça de monter un peu en puissance. Moi, je la sens bien, notre Ligue 1. Entre le rachat des droits TV, bon, il y a eu cet épisode Covid qui impacte un petit peu tout ça, mais entre les clubs qui vont un petit peu plus loin, l'indice UEFA qui remonte, là, ça commence à sentir un peu plus le parfum de la Ligue des Champions, quoi. Parce que j'ai ce côté patriote qui fait que même quand le Paris Saint-Germain est éliminé, j'arrive quand même à regarder les autres clubs français dans cette compétition. Donc, non, après, de bel augure pour la suite. Je pense pour avoir regardé un petit peu les matchs, qu'il y ait de grandes chances que ça soit quand même Manchester United qui en bout de course gagne, parce que bon là elle met un 7-1 sur les deux confrontations à Copenhague, mais c'est surtout aussi une équipe qui maintenant sur cette compétition a toujours joué avec son équipe B, parce que sa priorité c'était de viser le plus haut en première ligue, et maintenant qu'ils ont terminé leur championnat, qu'ils ont acquis leur billet Ligue des Champions et qu'ils ont passé ce cap qui était le 8e de finale, je pense que là ils vont commencer réellement à pouvoir aller de l'avant et à mettre la grosse équipe, et ça va donner à mon avis des matchs assez sympas.
Kevin, moi j'ai envie de te poser une question. Est-ce que cette Ligue Europa n'est pas aussi tronquée entre guillemets? Est-ce que c'est pas vraiment la petite Ligue des Champions étant donné qu'on reverse les troisièmes de poule?
Non, elle n'est pas tronquée, parce que quand tu finis troisième d'une poule qui est chargée, comme celle par exemple du Bayern en l'occurrence, où ils sont tombés contre la Juve et contre l'Atletico, c'est dommage, parce qu'ils seraient tombés sur une poule plus faible, ils auraient peut-être pu accéder à la Ligue des Champions, mais qui est soit reversé en Europa League, je trouve ça bien, et heureusement au final, parce que peut-être qu'il ne resterait justement pas assez de grosses équipes, et peut-être que la compétition serait peut-être moins belle, parce que là oui, on parle de l'Inter reversé, et le Bayern qui a été reversé, mais si on enlève ces deux clubs-là, tout de suite, il y a un peu moins de favoris, et justement, c'est l'après de la compétition jusqu'à la fin de la saison, ça va être le fait qu'il y a 4-5 équipes qui peuvent prétendre à la victoire finale, et ça peut être que plus excitant pour la suite. Donc moi, je trouve ça bien de reverser les troisièmes de poule de Ligue des Champions dans cette Ligue Europa, qui pour moi est une compétition qui a aussi son mot à dire, qui mérite d'exister, qui est passionnante aussi quand on s'y intéresse. Il faut juste que les clubs jouent le jeu. Pendant le passé un temps, j'avais l'impression qu'il y avait que les clubs espagnols qui jouaient le jeu. Là, les clubs anglais
c'est vrai
aussi, c'est bien. Les clubs italiens, j'espère, vont finir par le faire. Naples a essayé de le faire quelques années, mais difficilement. L'Inter, cette année, l'affiche de toute façon, depuis qu'ils ont été reversés en Europa League, ils affichent leur ambition de la gagner. Donc ça, c'est bien. Il manque plus les clubs de Ligue 1 et on aura peut-être une vraie Ligue des Champions bis comme on aimerait qu'elle soit, parce que c'est pour ça qu'elle
est
Ligue Europa. Donc j'espère en tout cas que, comme l'a dit Pierre, les clubs de Ligue 1 finiront par la jouer correctement, à fond.
Même tous les clubs européens.
Les clubs ambition.
Parce que vous avez vu, il y a quand même dans les éliminés, il y a quand même la AS Rome, il y a le Celtic Glasgow, il y a le Benfica. Il y a l'Ajax Amsterdam, il y a Arsenal, il y a le RB Salzbourg. Ouais. Il y a quand même des énormes clubs qui ont déjà été éliminés de ce groupe. Et on peut imaginer un dernier carré, ou aller même les 8 dernières équipes. Énorme, une petite Ligue des Champions. Quoi.
J'ai envie de te dire que c'est presque nécessaire avec toutes les équipes et tous les championnats qui montent en puissance. C'est étonnant, je ne m'attendais pas avec Kevin à ce point de vue. Lui qui est amoureux d'un club qui squatte l'élite de la Ligue des Champions maintenant depuis quelques années. Mais c'est bien. Moi, à l'inverse, tu vois, je trouve ça un peu... En fait, pour moi, le fait de rebasculer les gros troisièmes sur cette Ligue Europa, c'est pour éviter pour moi plus les faillites économiques, les faillites financières avec énormément de départs, notamment sur le mercato hivernal. Parce que, mine de rien, il y a certaines équipes qui ne peuvent pas se permettre de s'arrêter au moment des poules en Ligue des Champions et pour qui, entre guillemets, c'est un lot de consolation. Mais ce que je ne veux pas à terme, c'est que ce lot de consolation se transforme à chaque fois comme un dû et que ce soit toujours un troisième de poule LDC qui finissent toujours par gagner, comme ça a pu l'être avec l'Atlético ou autre. Voilà, parce que ça me rend un petit peu triste à des clubs qui ont moins de puissance, qui ont moins de capacité et qui se retrouvent là et qui jouent un joli football et qui finissent par se faire écraser parce qu'ils sont face à des équipes qui ont des budgets qui sont colossaux. C'est juste entre guillemets, moi si c'était à moi de choisir, j'arrêterais de rebasculer ce troisième sur la Ligue Europa, ce qui permettrait à d'autres clubs d'avoir plus de chances de s'illustrer, des clubs de moyenne où on regarde nous à l'image de notre championnat de France, comme l'ont pu être Saint-Étienne ces dernières années, des clubs qui ont moins de moyens comme Nice par exemple. Tu vois, typiquement l'année prochaine, admettons, le Real termine 3ème, le Real se retrouve en Ligue Europa. Ligue Europa, t'as notre petit Nice avec toutes ces bonnes résolutions qui se retrouvent face à l'ogre.
Ouais,
tu sais très bien
après,
qu'il y a de grandes chances que ça s'arrête rapidement.
Je suis d'accord avec toi, le problème c'est que si dans le dernier carré, t'as l'Apoel Nicosie, t'as Nice, t'as Ludogorets, bon, c'est moins intéressant que si t'as Manchester.
Ouais, mais tu regardes en basket ou ailleurs, ça se fait comme ça. Hein. T'as une vraie distinction.
Ouais,
aujourd'hui, la Ligue Europa se mélange un petit peu avec la LDC et parfois t'as des finales limites de Ligue Europa qui vont être plus belles, plus intenses, avec plus de niveau
peut-être
que la Ligue des Champions. Et c'est un paradoxe quand même, non?
Moi, je pense qu'il y a tout l'enjeu économique aussi derrière.
Ouais,
et par rapport à ce que je te dis,
là,
forcément, les grosses cylindrées, on préfère les voir à la télé que les autres. C'est mon avis. Je pense que
mais de toute façon, s'il y a quelque chose que la Coupe d'Europe nous enseigne depuis quelques saisons, je trouve, c'est que tout est possible dans ces deux compétitions.
À Marseille a été en finale, tout est possible.
En quart de finale. Qui aurait cru que Leipzig y aille aussi? Qui aurait cru que Marseille a en finale de Ligue Europa il y a quelques années? Qui aurait cru que l'Ajax ferait une demi-finale et se ferait éliminer à la 95e minute par Lucas Moura?
Je suis d'accord.
Moi, je pense que tout est possible dans cette compétition, vraiment. Si les clubs jouent le jeu à fond. Je suis persuadé que des clubs, même nos clubs de Ligue 1, Lyon vient de le faire, peuvent embêter les meilleurs clubs européens sur une double confrontation directe. Alors, c'est dur, c'est sûr, mais moi, je pense que il y a toujours un moyen de faire quelque chose. Et je pense qu'il faut tirer l'enseignement des petits clubs que je viens de citer pour dire, nous on peut le faire aussi les gars. Hein, Saint-Etienne, avec un peu de volonté, ils auraient fait un peu mieux.
Ils ne sont pas tombés contre des gros. Je suis d'accord avec vous, toi, et je suis d'accord avec vous sur le fait que la Ligue Europa peut nous faire vibrer, une fois n'est pas coutume.
Alors juste en mieux. on va parler quand même aussi de la Ligue des Champions, hein, parce qu'on le dit, c'est une petite Ligue des Champions. Je pense que la Ligue Europa, voilà, on peut clôturer le sujet. Et moi personnellement, ça me fait plaisir que cette Ligue Europa devienne, comme tu le disais, Kevin, intéressante, que les équipes commencent à jouer le jeu. Ça me paraît indispensable, même si ça rajoute énormément de matchs. Mais maintenant, on a vraiment deux coupes d'Europe qui sont intéressantes, qui font plaisir à regarder et qui donnent de l'enjeu au football actuel. Messieurs, on passe à ce fameux match qui a opposé donc la Juventus face à l'Olympique Lyonnais. On se le rappelle, 1-0 au match aller pour l'Olympique Lyonnais. Un petit hold-up, hein, même si on n'avait pas vu une grande Juventus, on n'avait pas vu non plus un grand Olympique Lyonnais. 1-0 à l'aller. La période du Covid, on se retrouve quasiment 4 mois après, hein, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas, messieurs. 4 mois après, du côté du Juventus Stadium. Écoutez, j'ai vu, moi, un match... voilà, je vais vous donner mon avis, après vous donnerez le vôtre. Moi, j'ai vu vraiment un Olympique Lyonnais qui a fait ce qu'il fallait, qui a fait le nécessaire, tant tactiquement, mais surtout psychologiquement, d'accord, dans leur envie, dans leur placement, dans leur replacement. Mais par contre, ils ont fait ce qu'il fallait face à une Juve actuelle, c'est-à-dire pas la grande Juve qu'on a pu connaître, c'est une Juve actuelle qui souffre, qui est un peu dans le mal, parce que face à une Juve qui serait révolté, qui serait scalé d'habitude avec ses envies, avec sa grinta, je pense que l'Olympique Lyonnais n'aurait pas pu faire face. Voilà mon avis. Aujourd'hui, on a un Olympique Lyonnais, certes, qui est qualifié, qui a fait ce qu'il fallait, j'en suis content, j'en suis supporter, mais qui a réussi grâce à une Juventus du moment qui n'était pas à sa meilleure forme et surtout pas dans son meilleur état psychologique pour aller chercher une victoire.
Allez, Kevin, je prends les devants comme ça, après je te laisse un petit peu parler.
Vas-y.
Il faut voir une chose, c'est que bon, j'ai regardé le match, je suis assez d'accord avec toi, Melvin, sur le fait que Lyon a fait le strict minimum pour se qualifier, mais bon, il fallait quand même le faire, c'est historique, c'est la première fois qu'un club français élimine la Juventus de Turin, ça laisse quand même aussi place à un vrai petit exploit qu'a fait cet Olympique Lyonnais et qui a pu aussi être permis par le faible niveau de la Juventus. La Juventus de Turin, quand je les ai vus jouer là, ces derniers temps, sur les derniers matchs de Serie A, parce que j'ai eu le temps forcément vu qu'il n'y avait pas de Ligue 1, et quand je les ai vus jouer hier, tu sais quoi, quand je voyais la Juventus Turin jouer, j'avais l'impression de voir le Portugal il y a 4-5 ans, où en fait t'as Ronaldo et le reste, où t'as Ronaldo qui est à moitié coach, où tu vois Ronaldo pendant le match qui engueule Sarri, où Sarri interpelle Ronaldo qui l'envoie chier en disant non mais, et qui montre un joueur du style, lui il fait pas le repli, putain il coupe tout le jeu, faut le fluidifier, et où c'est Ronaldo qui donne presque à ses collègues, à ses collègues sur le terrain, qui va donner les consignes de jeu à ses collègues. C'était Ronaldo et le reste. Le but que Ronaldo il met, qui part en pleine lucarne, qui remet vraiment la Juventus et qui redonne un second souffle à la Juventus sur ce match. Avant ça, punaise, tu te dis waouh, ça va aller au 1 jusqu'à la fin du match et puis il n'y aura pas de spectacle. Moi, le seul truc qui m'a fait vibrer, c'est Ronaldo et Aouar côté lyonnais. Mais c'est vrai que waouh, la dépendance de Ronaldo pour cette Juventus, ça me fait mal parce que quand tu regardes sur le terrain, il y a quand même des beaux joueurs. Alors, il y a eu un éclair de génie de Bernardocchi qui en début de match nous a fait un truc, ça m'a rappelé Pastore au Parc des Princes il y a quelques années. Il a fait une percée assez exceptionnelle sur le côté en mettant tout le monde aux abords. Et une fois n'est pas coutume, c'est Marcello qui nous sauve,
qui sort de nulle part,
tel un gardien de hockey incroyable, quoi, incroyable vraiment. Mais bon, pour le reste, à part ça, mais Ronaldo est partout. Ronaldo est partout.
C'est un grand joueur, ça, je suis d'accord.
C'est un grand joueur, mais il a 35 ans. Les gars, faut pas oublier une chose. Faut pas oublier qu'il y a 2 ans, quand il arrive sur ses 33 ans et qu'il joue au Real de Madrid, la dernière année, Zidane, à un moment, s'exprime à la mi-saison en répondant aux journalistes, en disant « Moi, Ronaldo, je le vois sur le terrain, mais je le vois aussi en dehors. » Ronaldo n'est plus tout jeune. Ronaldo n'a plus les capacités physiques. En tout cas, si on a envie de le protéger, de le faire durer, de faire tous les matchs, on ne peut pas se permettre d'avoir une Ronaldo-dépendance parce que Ronaldo, aujourd'hui, à l'âge qu'il a, il faut savoir le faire souffler. Il faut le garder dans les matchs à enjeu. Et moi, là, à l'inverse, j'ai eu une Juventus et un Sarri qui n'a pas fait attention à l'intégrité physique de ses joueurs. On le voit avec l'entrée de Dybala, où Dybala, au bout de 5 minutes, déjà à l'échauffement, il boitait sur le bord du terrain. Il le fait rentrer, il n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à foutre. Sarri, il a voulu jouer sa pomme, il a voulu sauver sa pomme, quitte à mettre Ronaldo à la retraite et Dybala en opération au bloc pendant tout l'été. Moi, j'ai trouvé ça petit. Sarri, j'attendais qu'une chose, c'est de toute façon qu'il dégage. J'en avais parlé dans l'émission précédente où Kevin avait dit « Ouais, mais bon, Sarri, s'il avait eu les 4-5 joueurs qu'il voulait, peut-être qu'il aurait pu. » Non, Sarri, pour moi, c'est terminé. Je pense qu'il aura toujours des bancs par rapport à ce qu'il a pu faire ces dernières années. Mais pour moi, Sarri, c'est en grande, grande, grande partie sa faute si aujourd'hui la Juventus s'est éliminée. Vraiment.
Ouais, je pense que c'est un coach intéressant, mais justement qui n'est pas adapté à la Juventus, parce qu'à la Juve, on n'a pas le temps.
Oui, il n'est pas adapté. Et puis bon, tu le vois à tous les niveaux. Et puis encore une fois, moi, ce qu'il a fait avec Dybala, de le faire rentrer, il ne fait pas attention à l'intégrité. Il avait les joueurs nécessaires sur le terrain. Il avait juste à faire la bonne composition d'équipe, à donner les bonnes consignes et arrêter de s'en mettre à un Ronaldo ou un éclair de génie de Dybala. Dybala, cette année, il nous a mis des buts, mais stratosphériques. Vraiment, hein. Des buts où il traverse toute la défense. Et ben, je pense que quelque part, Sarri, il a dû se dire « Je vais offrir à l'enfant du peuple la chance de pouvoir être le héros de cette soirée. » Ouais, mais sauf que mon grand, tu fais rentrer un joueur sur un genou. Et pour ça, rien que pour ça, c'est vraiment petit. Donc, moi, dans mes flops, c'était Sarri, forcément. Sarri, c'est un flop. L'arbitre, je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'il y avait 22 acteurs et puis je pense qu'il y a de quoi faire en termes de discussion. Mais
c'est la VAR sur les 8e qui est catastrophique. C'est même pas sur ce match.
Et pourtant, tu vois, je suis pro-lyonnais à la base, mais sincèrement, en donnant un pénalty en début de match comme ça aux Lyonnais, il a saccagé le moral de la Juventus.
Déjà, moi, il n'y avait ni pénalty pour Lyon, ni pénalty pour la Juve.
Il n'y avait aucun pénalty, sauf que tu sais très bien que sur ce match, c'est pas la Juventus qui était avantagée, parce qu'en marquant dès le départ, la Juventus devait mettre 3 buts.
Ah, qui est complètement. Le coup derrière la tête,
Même quand il revient à 1-1, si on peut se dire qu'à un moment, l'arbitre, il le fait de manière consciente ou inconsciente, entre guillemets, pour équilibrer un peu les débats, sauf que la vérité, elle n'est pas là, parce que tu sais très bien que même avec 1-1, ça avantage encore Lyon.
Oui, complètement.
Qu'un 0-0.
S'il fait encore 2 buts derrière.
Bah oui. Donc, pour le coup, bref. Moi, mon avis sur tout ça, c'est que la Juventus, il va falloir qu'il y ait un renouvellement. Il faut vraiment qu'ils arrêtent de s'en remettre à Ronaldo, parce que faire jouer autant de matchs un mec de 35 ans, lui donner les clés du vestiaire, lui demander de faire le ménage après le match, de planter les buts, 45% des buts cette année de la Juventus, 45% des buts. C'est un mec de 35 ans qui les plante. Un mec de 35 ans qui a été ménagé ces dernières années. Donc à un moment, tu te dis, si la Juventus, la grande Juventus, championne en titre, 9 ans consécutifs de Serie A, avec le palmarès qu'elle a, qu'elle est obligée de s'en remettre à un extraterrestre de 35 ans, moi franchement, ça me fait triste, ça me rend vraiment triste.
Mon Kevin, toi, ton avis de supporter, de consultant? Je pense que ça a dû te faire mal, cette défaite, de passionné.
Que ça a été dur, cette soirée. Je n'avais pas revécu une soirée comme ça depuis... si on enlève le match aller, parce que le match aller, tu te dis encore que tout est possible, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir vu quelque chose d'aussi catastrophique. Et la saison a été particulière, éprouvante. En fait, le problème avec Sarri, c'est que moi, j'ai vu des matchs de la Juve cette saison, notamment la double confrontation en match de poule contre l'Atlético, où on fait 2 très bons matchs. Je vous rappelle que l'Atlético est encore en lice, Ligue des Champions, et ils peuvent encore aller très loin dans cette compétition, qui est limite à Liverpool. La Juve Sarri a réussi à déjouer le piège Atlético pendant les phases de poule à 2 reprises. Je pense que de toute façon cette saison et ces 2 matchs contre Lyon, il y a plusieurs facteurs en même temps. Ça ne peut pas être que Sarri, bien évidemment qu'il a sa part de responsabilité. Bien évidemment que moi aussi, quand on se fait éliminer, j'ai qu'une envie, c'est de part, parce que je sens qu'il n'a plus la main sur le vestiaire, qu'il n'a plus la main sur pas grand-chose, et depuis quelques temps déjà. Donc moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Déjà, il y a un facteur chance qui est essentiel pour aller aussi loin en Ligue des Champions. Il faut un petit peu de chance, de temps en temps.
Faute partout.
Il faut ce petit coup de pouce qui te permet de te dire, bon, allez, bon, non seulement on joue bien, peut-être, ok, mais bon, il nous faut un petit peu de chance aussi de temps en temps. Et là, si j'enlève aussi le facteur blessé, hein, avec Douglas Costa, Dybala, Kedira, j'en passe, c'est des meilleurs, Chiellini qui a fait toute sa saison blessé, etc. En plus de ça, si tu nous colles un pénalty inexistant à la 10e minute de jeu, c'est compliqué. En plus de ça, si tu joues le match retour dans ton stade vide, sans tes supporters, c'est plus compliqué aussi. Je ne cherche pas de circonstances atténuantes. Les problèmes de la Juve, ils existaient avant le match contre Lyon. Mais on va dire qu'on n'a rien. En tout cas, nous, on n'a rien fait pour y arriver, mais en tout cas, on n'a rien eu pour nous non plus.
Non, donc, non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Un petit peu, mais c'était pauvre.
Voilà. Après. Non, mais c'était pauvre. De toute façon, les derniers matchs de la Juve ne me laissaient rien, augurer rien de bon pour la
Quatre
suite.
4 matchs, 3 défaites. Hein.
Je préfère perdre comme ça plutôt que de passer, on va dire, en ayant joué mal et qu'on retienne qu'une chose, c'est que la Juve a gagné sur un sort de l'arbitre ou que sur un but de Ronaldo à la 95e minute, etc. Je préfère qu'on perde en ayant mérité de perdre plutôt que de gagner sans l'avoir mérité.
Alors, vraiment. Moi, j'aimerais avoir ton avis parce que moi, il y a vraiment quelque chose qui m'a dérangé. Je vais être franc avec toi. Il y a quelque chose qui m'a dérangé. Que ce soit pauvre au niveau du football, tactiquement, ce que tu veux, moi, j'ai pas retrouvé cette grinta qui caractérise la Juve. Il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas d'intensité.
Mais tu as tout à fait raison.
Et ça, je comprends pas.
Mais tu as tout à fait raison. Mais ça, c'est le gros problème de Sarri cette saison. S'il y a quelque chose qu'il n'a pas réussi à. Ou qu'il a enlevé en tout cas à cette Juve, parce que je ne veux pas dire qu'il n'a pas réussi à le donner, la Juve l'a déjà dans son ADN.
C'est pour ça.
Il l'a enlevé, c'est bien ça. Mais c'est bien ça, parce que c'est un entraîneur qui ne transpire pas, on va dire, la soif de vaincre.
Ouais.
C'est quelque chose qui ne déborde pas de lui. Et c'est problématique quant à la Juve, parce que la Juve a ça dans son ADN. La Juve ne joue que pour gagner. C'est le slogan principal de l'équipe qui a été donné par Boni Perti il y a des années et des années. Donc, c'est ça. Et on a vu déjà des signes alarmistes de ça, de ce manque de grinta qui, justement, te fait perdre des matchs. La Juve a perdu un nombre incalculable de matchs après avoir mené au score, même par 2 buts d'écart.
Ouais, mais tu vois, là, pour moi, c'est un Bonucci là, qui doit faire. C'est ça, pour moi, le monde qui sépare Bonucci et d'un Ramos. Ils ont tous les deux des palmarès exceptionnels. C'est des défenseurs centraux exceptionnels. Putain, mais le mec, il est où son tempérament qu'il pouvait avoir à l'époque de la grande Squadra Azzurra? Putain, sur un match comme ça, tu dois tes gars devant, tu dois les faire suer. Tu dois leur dire, les gars, il faut mourir pour le ballon.
Pjanic,
c'est son dernier match à la Juve.
Il le faisait.
Pjanic, c'est ton dernier match à la Juve. Putain, mais meurs pour le ballon, gros. Meurs pour le ballon, quoi.
Moi, ce qui m'a.
Il le faisait avant. Même Buffon, il est sur le bord du terrain.
Alors, c'est ce que j'allais dire. Moi, ce qui m'a choqué, c'est Chiellini et Buffon sur le banc qui étaient, mais comme des malades, par contre.
Ouais, c'est dingue.
Ils étaient comme des fous. S'ils avaient pu rentrer sur le terrain, ils seraient rentrés.
Ils voulaient tous prendre la place d'Higuain, même Buffon.
Même moi, je vais prendre la place d'Higuain.
Prendre la place d'Higuain, quoi. Oh, mais ce joueur, quoi.
Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette équipe. Sarri a modifié trop de choses, je pense, cette année. Il l'avait dit dès le départ, quand il prend les rênes de l'équipe, il dit qu'il jouera pour Ronaldo. Donc, ce que tu dis, Pierre, ton analyse, elle est vraie, mais c'est la volonté de Sarri.
Je l'ai pas entendu, tu vois, ça, Kevin. Je savais pas qu'il l'avait dit.
Quand il arrive à la Juve, il dit « Je veux faire marquer plus de 50 buts à Ronaldo cette saison ». C'est annoncé quasiment à la première conférence de presse qu'il donne.
Putain, incroyable. Donc, j'aurais été scandalisé. Si je l'avais entendu.
Bah ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Donc maintenant, c'est fait, on ne reviendra pas en arrière. Mais il a changé beaucoup de choses. Sarri, par exemple, a instauré ce qu'on appelle la défense de zone à la Juve.
Oui, complètement.
Donc, en toutes circonstances. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais qui joue en défense de zone aujourd'hui?
Les basketteurs.
Alors, tu peux jouer en défense de zone, hein, tactiquement, c'est faisable. Mais alors, il faut que ça soit inculqué depuis très longtemps et même dans les centres de formation. Parce que ça change tout.
Liverpool jouait un peu en défense de zone.
Liverpool sait le faire, mais parce que t'as Van Dijk, voilà. Mais derrière, je suis d'accord avec toi, c'est difficile. Alors justement, moi j'aimerais qu'on rebondisse là-dessus. J'ai trouvé très surprenant, je m'attendais pas du tout à ça, que Sarri soit mis dehors le matin et qu'on annonce tout de suite Andrea Pirlo, qui prend les rênes de la Juventus. Il faut savoir qu'il allait prendre les U23, ouais, d'accord, à la Juventus. Il n'a pas d'expérience d'entraîneur. Ouais. Maintenant,
rien, même pas un club de
même pas un club. Il y avait Mauricio Pochettino qui aurait pu venir. Il y avait Antonio Conte. Il y avait Pippo Inzaghi.
Apparemment, c'est le vestiaire qui aurait choisi Pirlo.
Alors après, est-ce que justement ce que tu dis, Kevin, Pirlo justement va pas réinculquer cette grinta et cette aura que n'avait pas Sarri?
Alors, ce qui est sûr, c'est que personne n'avait vu venir. Il n'était même pas, en centième position pour prendre la place de Sarri, je suis sûr, dans le cœur des supporters ou même dans les analystes, les plus grands analystes. Personne ne pouvait prévoir ça. Tout le monde citait Pochettino parce qu'il était libre. Tout le monde citait Zidane parce que Zidane, il a toujours, je pense, une idée d'aller à la tête, celle de venir quand même à la Juve, parce que c'est un club qui l'a aussi marqué. On a parlé d'Inzaghi parce que c'est l'entraîneur qui est un petit peu en vogue en Italie avec le parcours de la Lazio. On a même parlé de Conte qui est en conflit avec son club de l'Inter actuellement et qui fera peut-être machine arrière un jour, j'en sais rien. Mais bref, on a parlé de beaucoup, beaucoup de choses, mais pas de Pirlo. Et moi, c'est une décision que j'ai du mal à comprendre, aussi bien pour la Juve, aussi bien pour Pirlo. Pirlo, prendre les rênes d'une équipe comme la Juve, comme première expérience, tout Pirlo qu'il est, joueur fantastique que j'adore, qui est une personne fantastique, enfin, j'ai rien de négatif à dire sur ce joueur. Mais je comprends pas ce choix qu'il fait, c'est un choix ultra, ultra ambitieux. J'espère qu'il est conscient du choix qu'il fait parce que ça peut lui flinguer toute sa carrière, parce qu'il a aucune expérience. On parle souvent, on dit oui, mais regarde Zidane. Oui, mais Zidane, avant de devenir Zidane au Real Madrid et de gagner 3 Ligue des Champions de suite, Zidane, il est d'abord dans le staff de Florentino Pérez en tant que consultant. Il rentre dans le staff de Mourinho en tant qu'adjoint, etc.
Il entraîne à la réserve.
Il continue avec Carlo Ancelotti. Il prend la Castilla et après, il devient entraîneur du Real. Et encore, il devient entraîneur du Real après que Benitez soit viré. Donc, oui, c'est-à-dire qu'il ne devait même pas à la base l'être tout de suite.
C'est même pas comme un Thierry Henry qui va en Ligue américaine en amont, quoi. C'est là, il est direct propulsé sur le devant de la scène, quoi.
Ouais, et moi ça je comprends pas. Alors aujourd'hui, tu me poses la question, est-ce que Pirlo va y arriver? Je sais pas, je connais pas les aptitudes de Pirlo en tant que coach.
Mais toi, donc, en tant que supporter, t'es inquiet ou pas?
Bah oui, moi je suis inquiet parce que je me dis que c'est franchement, ils aiment pas tout dans ce climat-là. Parce que la Juve, elle a un projet de gagner la Ligue des Champions, c'est le projet d'Agnelli. Il l'a encore annoncé en conseil d'administration qu'il fallait envoyer, ils ont augmenté le budget, je ne sais pas combien de millions d'euros il y a un peu moins d'un an pour pouvoir justement atteindre cet objectif. Donc on sait que l'objectif, il est proche. J'ai du mal à comprendre comment tu peux mettre ça avec Pirlo. Et tu as raison, Pierre, c'est le vestiaire qui a élu Pirlo cette année. Et ça m'inquiète aussi, parce que pourquoi le vestiaire prend les commandes
ça,
de cette manière-là? C'est très dangereux, très très dangereux. Et moi, j'ai très peur, même si je souhaite tout le meilleur à Pirlo. J'espère, même pour lui, parce que c'est quelqu'un que j'adore, j'espère qu'il ne se plantera pas. Alors, il ne va peut-être pas gagner avec les champions, mais j'espère au moins qu'il fera mieux que Sarri. Et voilà, on verra. Mais en tout cas, de toute façon, pour moi, c'est à double tranchant. C'est soit il se fait éliminer en octobre, il se fait virer parce que ça ne va pas du tout, soit il fait un parcours honorable. Je ne pense pas qu'il nous fera gagner avec les champions. Ce serait quand même hallucinant. Mais je pense que s'il fait au moins un quart tout en obtenant le 10e Scudetto d'affilée, en ayant proposé un jeu plus flamboyant que celui de Sarri, on pourra dire que...
Oui, qui redonne de l'ADN, quoi. Et mon Kev, t'as vu par contre, messieurs, la réaction de Ronaldo après le match? Vous avez vu son grande classe, hein. Grand joueur, grande personne. Top. Hein.
Je n'ai pas vu, excuse-moi.
Franchement, tu regarderas, même la manière dont il parle du club de la Juventus, qu'il parle des supporters, qu'il parle de la place de ce club dans le football moderne.
Non, il fait un super. Franchement, c'est une super déclaration. Impressionnant.
Une vraie déclaration.
Enfin, moi, je sais que Ronaldo, parce qu'on l'a vu au Real. On sait que lui, quand il a envie de se barrer, généralement, on le sent venir quand même un petit peu.
Je ne pense pas qu'il a envie de partir.
Un petit peu avant de partir, il dit bon, c'était bien. Maintenant, bon, on va peut-être passer à autre chose.
Il dit
là, son discours,
ce
n'est pas du tout celui-ci. Alors, soit c'est un grand comédien et il ne veut pas mettre le feu aux poudres. Soit, pour moi, il est vraiment sincère. Pour moi, son discours, ça a été de dire il faut qu'on réfléchisse. La Juventus est un très grand club. On ne peut pas se contenter de ce qu'on a fait. Il faut voir plus loin. Donc voilà, je pense que de toute façon, je pense qu'il fait partie des cadres de l'équipe qui ont voulu, qui ont précipité le départ de Sarri, parce que je pense que Buffon, Chiellini, Bonucci, tout ce wagon-là a bien milité pour que Sarri s'en aille. On le voit d'ailleurs avec le manque de soutien de Sarri après sa démission. quasiment aucun joueur n'a fait une moitié de remerciements, même pour dire bonne route à Sarri. Donc ça en dit long sur la relation de Sarri avec le vestiaire. Bouffon n'a rien dit. Chiellini a fait un grand but aussi de stage. À aucun moment il n'est pas Sarri. Bonucci a un petit mot. Dybala a un petit mot. Et le reste, aucun mot. Même Pjanic qui s'en va, il ne dit même pas merci. Enfin, je veux dire,
Kevin, on te perd un peu là. Ça coupe. Ça saccade.
Bon, messieurs, ça saccade, mais c'est pas grave, ça saccade un peu. On va parler des autres matchs parce qu'il nous reste quand même peu de temps dans cette émission. Je pense qu'on va pas revenir sur le match entre Chelsea et le Bayern de Munich. C'est 3-0 à l'aller, ouais. Messieurs. C'est 4-1 retour. Le Bayern de Munich largement au-dessus. Chelsea qui est venu d'ailleurs au Bayern avec une équipe pas forcément avec de l'ambition. Hein.
Non, une équipe bis. Bon, ils savaient très bien que
voilà. C'était terminé. Et le Bayern très très fort avec un Lewandowski exceptionnel.
Ouais, on peut juste faire une petite parenthèse sur Lewandowski, voilà. Qui est quand même stratosphérique, okay. 12e et 13e but. Et sincèrement, le Bayern, moi,
sans match retour,
ouais.
Sans match retour, il va peut-être égaler le record de Ronaldo, je crois. Hein.
Ouais, c'est le Ronaldo.
De Ronaldo.
Ouais, c'est ça. Ouais, 16 buts.
Voilà, de Ronaldo sans les matchs retour. Un match sur lequel on peut revenir rapidement, et ça, je pense, c'est important, c'est le Real face à Manchester City. Les mêmes scores, 2-1 à l'année pour City qui avait gagné du côté de Bernabeu. Et 2-1 au match retour encore pour City. J'ai vu un City monstrueux.
Qui avait la dalle.
Oh là là, incroyable. Et puis un jeu exceptionnel, un Kevin De Bruyne millimétré.
Oh là là.
Walker que j'ai trouvé exceptionnel. Par contre, excusez-moi messieurs, un peu comme l'a dit tout à l'heure, Kevin ou Pierre, je ne sais plus, orphelin complètement d'un mec. Qu'à la bouteille, qu'à la grinta, c'est Sergio Ramos, la classe en tribune, en costume 3 pièces parce qu'il était suspendu. Et à côté de ça, j'avais des gamins sur le terrain, un Varane complètement à la rue.
Là là.
Non mais faut le dire.
Non mais ce match qui fait
incroyable. Oh, incroyable. Man. Varane, Caraval, il n'y a que Ferland Mendy pour moi qui a fait son match.
Oh, c'est... Vas-y Kevin, je te laisse commencer.
Il fallait jamais sous-estimer la puissance du charisme d'un joueur sur le terrain, même s'il n'y en a qu'un. Ça peut faire renverser des montagnes. Et un joueur comme Ramos, absent sur le terrain, c'est très préjudiciable pour le surtout dans un match où l'adversaire aussi fort.
Essaye de bouger, mon Kevin, parce qu'on t'entend vraiment mal.
En face.
Si t'arrives, il fallait pas bouger.
Je bouge.
Allez, si tu veux. Bouge, si tu veux. Vas-y, on refait un essai.
Change de chambre dans ton palace,
vas-y.
Cette place.
Vas-y, reprends la parole.
Du coup, ouais, je disais, je ne peux jamais sous-estimer la puissance et le charisme d'un leader sur le terrain comme Ramon. Ça peut soulever des montagnes sur un match, on va dire, avec un adversaire en face aussi fort. D'un côté, je suis content que Ramon ait vu ça depuis les tribunes. Ça lui apprendra peut-être mieux se comporter sur le terrain des fois, à faire un peu moins de tacles, un petit peu vicieux, tirage de maillot, que tu envoies là.
On t'entend. On t'entend.
Tu parles en anglais, mon Kevin. Tu parles en anglais. En direct de Washington.
Yes,
mon
gars.
Of course, man.
Je
vous
jure que je suis tout en moi, mais ça vaut pas le morceau.
Ouais, c'est vrai que ça grésille un peu. Mais bon. Oui, là, on t'entend. Vas-y, Kevin.
En fait, on t'entend, mais ça coupe.
Bref, pour moi. Ouais, là, c'est bon, ça va mieux.
Non.
On peut essayer de te rappeler, mon Kev. On peut essayer de te rappeler.
Allez, on va essayer de rappeler Kevin. Donc, justement, Pierre, moi, je suis vraiment déçu de ce Real de Madrid parce que je m'attendais à mieux. Ils ont gagné la Liga. Zidane est revenu. Ils ont fait ce qu'il fallait. Je les voyais quand même aller plus loin, même s'ils sont tombés face à un City exceptionnel. J'aimerais qu'on en parle. Est-ce que tu vois ce City aller gagner la Ligue des Champions?
Ouais, franchement, ce City, cette année, je ne les mettais pas forcément parmi mes grands favoris, mais ils ont été stratosphériques sur ce match, et j'espère que nos auditeurs ont eu la chance de pouvoir le regarder, parce que bon, il était en même temps, on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est vrai que la programmation là, des matchs, ça fait un petit peu mal au cœur d'avoir autant de beaux matchs en même temps. Ils ont été monstrueux en attaque, c'est colossal, il y a une fluidité dans le jeu, mais on voit aussi la patte Guardiola, hein, qui... pour le coup, forcément, à sa place. C'est un élément prépondérant, forcément, dans la qualité dans laquelle évolue son équipe. Il ne faut pas oublier que sur les dernières journées de Première League, Manchester City, c'est à chaque fois 4, 5, 6 buts de plantés avec des dizaines de tirs cadrés. Donc aujourd'hui, offensivement, cette équipe, elle évolue à un niveau que j'ai rarement vu hein, une telle cohésion, une telle capacité offensive. Et franchement, Manchester City, on peut se dire, ils ont croqué un peu la feuille 2-3 fois dans la surface, hein. Il y a Bernardo Silva à un moment qui fixe deux joueurs, qui repique dans l'axe, il a deux collègues juste à côté qui sont démarqués, qui n'ont plus qu'à la pousser au fond, et il essaye de frapper pour absolument lui aussi scorer et marquer son but. Sur la fin du match, ils étaient un peu en roue libre, chacun voulait y aller de son petit but. Et franchement, sur un match en élimination directe où il faut en planter le plus parce que tu ne sais jamais si l'autre peut revenir, sincèrement, ils peuvent être monstrueux en confrontation directe. S'ils ont ce niveau-là, ça peut être très très fort. Après, le seul petit point noir, entre guillemets, ça reste quand même défensivement. Pourquoi défensivement? Parce que cette année, le Real reste une grande équipe. Et si le Real reste une grande équipe, cette année, messieurs, on en avait parlé, c'est avant tout grâce à la défense. Parce que cette année, le Real de Madrid est la meilleure défense sur l'année 2019-2020. Donc, c'est là où, entre guillemets, ça met encore plus en lumière la force et la puissance offensive de cette équipe qui est City. Par contre, là, attention, c'est au niveau de la défense, parce que Benzema était bien, 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 bien seul. Il y a eu Hazard, mais Hazard pas des grands soirs, non. Qui a surtout repiqué dans l'axe, mais qui n'a pas vraiment joué sur son aile.
Modric,
et Benzema, lui tout seul, a réussi à quand même faire très mal à cette équipe de City, à plus d'une fois arriver à endormir la défense et à se retrouver face aux gardiens. Donc attention, City, face à une équipe avec une attaque de feu comme peuvent l'avoir aujourd'hui par exemple le Paris Saint-Germain ou d'autres, attention, parce que oui, ils peuvent en mettre 4, mais ils peuvent aussi très rapidement en prendre 5. Donc attention, attention.
Complètement. Mon Kevin, est-ce que tu es là pour clore le sujet justement sur ce match-là?
Ouais, je sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais moi j'ai dit que j'étais bien content en tout cas que Ramos ait vu ça depuis les tribunes. Ça lui apprendra certainement à mieux se comporter sur des matchs.
Ouais, c'est
et à moins
c'est possible, je suis d'accord.
Mais c'est terrible voilà. Pour Varane par contre. Hein.
C'est terrible pour Varane, mais bon, c'est Ramos, c'est un grand joueur, là. Il va.
Il y avait mais le projecteur sur arriver, Varane.
Ça peut arriver. Par contre, est-ce que vous avez vu Zizou et Pep discuter à la fin
sur la glacière?
J'ai trouvé
de Bielsa,
ça extraordinaire.
Bielsa qui leur avait laissé la glacière.
Non, mais c'était énorme. c'est certainement avec Jurgen Klopp les trois entraîneurs. Les meilleurs du monde en ce moment.
Ils discutaient comme
deux copains. Ouais, j'ai trouvé ça exceptionnel, alors que c'est finalement deux rivaux énormes entre le Barcelone et le Real. J'ai trouvé ça pour moi fabuleux. Et c'est comme ça qu'on aime le football. Messieurs, un dernier match, justement, qui a opposé le Napoli à Barcelone. J'ai envie de dire que Messi a gagné.
Messi a gagné. je vais dire pire. Messi a gagné et Griezmann a perdu. Comme ça, je vais lancer aussi la polémique sur les rails. Mais Griezmann, je crois que c'était. Ils avaient annoncé 56 ballons touchés, zéro tir. On pourra toujours en refaire des sujets.
Griezmann,
on va pas y revenir parce qu'on lui avait déjà consacré 15 minutes il y a de ça 3 émissions. Donc, chers auditeurs, si vous voulez écouter nos points de vue, je vous inviterai directement à aller voir en podcast, notamment sur la page Facebook. Mais Griezmann, quelle tristesse hier. Et puis oui, Messi. Alors après, moi, je nuance un peu parce qu'en off, parfois, on en discute un peu entre nous, chers auditeurs. Et c'est vrai que Melvin, il était là. Barça, magnifique. Limite, ils cherchaient la coupe pour leur filer. Il faut pas oublier qu'en face, les gars, c'est le Napoli. Et Napoli, 7e de Serie A, non qualifié.
Écoute,
pour l'année prochaine.
En face de la Juve, il y avait Lyon, 7e de Ligue 1. C'est un peu pareil. J'ai quand même vu un grand Jordi Alba, un grand Ter Stegen, un grand Messi. J'ai vu.
Et De Jong, il est où De Jong?
Il est stratosphérique.
Il a fait certainement son meilleur match.
Il était monstrueux.
Il était stratosphérique.
Si le Barça joue comme ça, mon Kev, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on peut pas finalement les voir on peut les voir plus loin que ce qu'on pensait auparavant?
Non, je pense que là, on vient de parler en plus de deux très grosses équipes que sont le Bayern et le City. Pour moi,
ouais, ça va s'arrêter.
Si le Barça rencontre ces deux adversaires-là,
ce qui va arriver,
je vois très très mal Messi tout seul arriver.
C'est City-Barça pour ce match. Hein.
Ouais.
Pour
moi, je vais vous dire franchement, je suis dégoûté de ce partage des tableaux. C'est vrai, où d'un côté, on a quatre mastodontes énormes et de l'autre côté, où on a quatre équipes un peu plus challenger. Et c'est dommage, je trouve ça dommage.
Sincèrement, aujourd'hui, pour le Paris Saint-Germain, j'aurais préféré jouer le Barça que l'Atalanta.
Peut-être, peut-être. Mais après, je pense qu'aujourd'hui, chaque match doit être gagné. C'est une seule rencontre. Et en tout cas, voilà. En tout cas, messieurs, on a une grosse actu. À partir de ce soir, les matchs commencent. C'est la Ligue Europa. Lundi, mardi, Ligue Europa. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, Ligue des Champions. C'est un programme monstrueux. On va vous régaler tout le mois d'août. Kev, je crois que c'est toi qui as préparé.
Non,
ah non, c'est Pierrot.
C'est
non.
Moi, parce que la semaine dernière, j'ai.
Ah oui, c'est vrai que j'ai mis Fanny. Il m'a pas fait bisous sur les fesses la semaine dernière.
J'étais fatigué, cher auditeur. J'étais fatigué. Et puis bon, c'est vrai que je suis quand même quelqu'un d'assez modeste à l'image de mon club, le Paris Saint-Germain. J'aime laisser aussi de temps en temps la victoire aux autres équipes.
Allez, on fait rentrer les supporters dans le Stadium RKS. Et justement, est-ce que mon Kev, t'es prêt? Parce qu'en tout cas, je peux vous dire, dans le stade de Mercaes, on n'a pas enlevé un siège sur deux. Il y a tout le monde qui est là. Est-ce que tu es prêt, mon Kev? Mon Pierrot?
Je suis prêt.
Est-ce que tu es prêt?
Ouais, je suis prêt. La première me fait sourire, je l'aime beaucoup, parce que ça résume bien le personnage et c'est fait avec une pointe d'humour, donc j'aime bien. Qui a dit, donc c'est un qui a dit, être dans la surface et ne pas pouvoir tirer, c'est comme être en soirée et danser avec sa sœur.
Mario Balotelli.
Hein?
Mario Balotelli.
Non.
Maradona.
Ouais, Maradona.
Ouais, mais ouais.
Eh oui.
Elle est connue, celle-là.
C'est vrai?
Elle est connue. Ah,
tu vois, moi, je savais pas. Bah, écoute. C'est le goal. C'est le goal.
C'est marrant, là, il fait pas de vidéo. Hein.
C'est bon, je vais en faire. Non. Ah, il y a 15-0, hein, messieurs, hein, c'est pas non plus.
Allez, deuxième question, elle est assez facile parce que c'est de l'actu. Parce que très souvent, on fait des vidéos, surtout pour Melvin, qui parle de personnes qui sont plus là aujourd'hui pour témoigner. Donc on risque pas de les avoir à l'antenne.
Maintenant, on dit que j'ai 36 ans, je parle que de Johan Cruyff, que des décédés.
Donc, messieurs, ça va parler indirectement du reportage qu'on a vu sur Anelka. Donc, c'est une petite question sur notre Anelka.
Allez.
Donc vous savez qu'Anelka donc a joué sur 7 pays. Il a joué dans beaucoup de clubs, que ce soit en première ligue notamment. Et parmi toutes ces expériences qu'il a pu avoir, quel est le club dans lequel il a le plus marqué de buts?
Chelsea.
Oui.
Go.
Mais ce qui est bien avec Melvin, c'est qu'il est rapide. Que ce soit pour dire des conneries ou des bonnes réponses,
ouais,
il est rapide.
Il faut un partout.
Chelsea, donc 59 buts sur 180 matchs contre Manchester City. 103 matchs pour 45 buts. Donc il a été moins efficace chez Chelsea. Le club dans lequel il avait été le plus efficace, donc c'était City. Mais bon, voilà. Bonne réponse.
Un partout, mon Kevin.
Un partout.
Allez, troisième question.
Troisième question. Je vais vous couper l'herbe sous le pied, je vais déjà vous donner le nom du deuxième qui n'est pas pour le coup la bonne réponse, ce n'est pas Sergio Ramos.
D'accord.
Il y a aujourd'hui quelque chose qui est au palmarès d'un joueur, qui n'est pas forcément le plus beau des palmarès, mais qui mérite quand même d'être dit. Quel est le joueur qui a reçu au cours de sa carrière le plus de cartons rouges?
Fabio Cannavaro.
Non.
Non.
On en avait parlé il y a quelques années, il y avait eu une histoire là-dessus, il avait même une...
Van Bommel.
Non.
Ça aurait pu, Van Bommel. Un joueur italien?
Non.
Du boucher, là.
Il a été milieu défensif, il a évolué par le passé...
Barton.
À Bastia. Eh oui, carton rouge, Bastia.
Non, c'est pas Barton, c'est
Cahuzac.
Et oui,
Cahuzac.
Cahuzac. Il jouait cette année au RC Lens.
Mais non.
Et le deuxième goal. Tu sais, t'es pas obligé de le laisser gagner parce que la Juve est éliminée, gros. Hein.
Ouais, c'est vrai. Je peux pas lui donner du beau moqueur comme ça avec la piquette que je t'ai mis la semaine dernière. Normalement, je dois revenir. Allez, 2-1 pour Kevin.
Allez, on enchaîne. Je vais gagner là.
Ah. Allez. Je me requinque.
Bon. Alors, quatrième question, messieurs.
Vas-y.
Qui a été... Pour moi, elle est assez simple, mais si vous commencez à partir dans le mauvais sens, ça peut durer un petit moment. Qui a été, messieurs, le joueur élu meilleur joueur du XXe siècle par l'UEFA?
Léo Messi.
Cruyff.
Alors, messieurs, quand je parle du XXe siècle, ça veut dire sur les années 1900.
Pelé.
Pelé.
Je l'ai dit aussi.
Mais non, t'as rien dit du tout. Mais t'as dit Cruyff, à quelle heure? T'as dit Pelé, on a rien entendu. La seule chose que t'as pelé, c'est les tomates du petit pour faire la soupe à midi. C'est tout. Et ouais.
Je demande le magnéton. Je veux la VAR.
Attention, c'est la question finale.
Purée. Et donc bon, en tout cas, simplement pour vous dire que petit aparté, pour revenir simplement sur une chose, je viens de retrouver une actu. Ce qui complétait le podium des cartons rouges, c'était Glick et José Fonte. Hein.
Ah ouais, bah Glick, je pense pas.
Pour les trois ayant écopé le plus de cartons rouges.
Et boucher des accords.
Ah ouais, là c'est.
Ah ouais, c'est ça.
Et... José Fonte, très bon joueur pourtant.
Hein?
José Fonte, bon joueur, moi j'aime bien.
Ouais, mais bon, de temps en temps, être bon, c'est aussi savoir mettre des petits taquets.
C'est
vrai. Tu vois bien, Ramos.
C'est vrai, c'est pas le plus gentil. Mais allez, la dernière question.
Dernière question, s'il vous plaît, je suis un peu pressé là.
Allez, dernière question, mon ami. Donnez-moi, s'il vous plaît, le classement.
Eric Cantona.
Non, vous devez me donner les trois premiers, donc dans l'ordre, hein, du premier au troisième, les trois équipes classées au niveau des pronostics. Comme pouvant gagner la Ligue des Champions cette année, du premier au troisième.
Bayern de Munich, Barcelone,
City.
Attends.
Bayern de Munich, Barcelone, City. Bayern de Munich, Barcelone, City.
Non, Kevin.
Non, Bayern, PSG, City.
Non.
Bayern, PSG, Real de Madrid.
Non. Real, il y est plus.
Ah. Bayern.
Oh là là. Alors,
Bayern, PSG, Barcelone.
Bayern.
Non. Non mais arrêtez les gars, vous me sortez déjà pas le premier. Le premier en termes de pronostic.
City.
Merci.
City. Bayern. Barcelone.
PSG.
Oui, City, Bayern, PSG pour Kevin.
Vas-y, mais il l'a même pas dit. Il l'a pas dit. Mais il l'a pas dit. Mais c'est quoi ce complot? Il a dit PSG. Moi j'ai dit Bayern City, lui il a dit PSG. Il a dit PSG. Donc déjà moi j'ai dit Bayern deux clubs et lui PSG, mon Pierrot qui dit mais j'ai gagné. Mais arrête ton cinéma, c'est vas-y, tu sais quoi? Eh bah de manière, ça tombe bien parce que c'est à moi de préparer le la semaine prochaine. Messieurs, notre t'as dit quoi? On t'a perdu, mon Kevin.
Je prends la tête.
Ah oui, tu prends la tête. On a compris. En tout cas, messieurs, notre émission touche à sa fin. Une émission haute en couleurs, je vous le dis. Hein, le mois d'août va être une régalade avec le programme footballistique qui est présent dès ce soir avec la Ligue Europa jusqu'à samedi avec la Ligue des Champions. Autant vous dire que lundi prochain, on va encore vous régaler. Merci, mon Pierrot.
Moi, je serai en direct de la Bretagne.
Et voilà.
Les moules et les huîtres.
Merci, mon Kevin. Merci, mon Kevin.
Kevin vient de se faire attaquer par son chien.
Soit il y a le chien qui l'a attaqué, soit c'est le petit qui s'est réveillé. Voilà.
Ouais, merci.
Kevin, écoute, dès au revoir comme
c'était
ça, j'en ai jamais connu, mais en tout cas, c'était le mot de la fin. Chers auditeurs, on reste connectés sur Facebook, on reste connectés sur Insta. Réagissez, s'il vous plaît. Régalez-nous également. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, 19h, sur RKS 97 FM. Salut.
Bisous.